Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers. Diffusée tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 16h30.
Bonjour à tous, il est 16h30 sur les ondes de Radio Campus Angers. On est très contentes et contents de vous retrouver. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui fait à la fois rêver et qui fait peur, c'est l'année de césure. Je suis avec Inola sur le plateau. Inola, tu fais notre communication sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, tu nous rejoins dans le studio pour une chronique.
Oui, bonjour Loan, bonjour Esteban. On va étudier un phénomène qui touche environ 12% des étudiants selon une étude de 2015, l'année de césure. Pendant cette pause, lors de leur cursus scolaire, les étudiants peuvent travailler, faire un stage ou encore partir en voyage. Et moi, j'ai cherché pour vous des idées pour occuper votre année de pause dans les études.
L'année de césure, ça peut faire peur, mais aujourd'hui, on va éclaircir ce choix d'orientation et le rendre moins effrayant avec notre invité du jour, Esteban.
Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers.
Bonjour Esteban.
Salut Loan.
Tu fais ton retour dans Ça nous parle ?
Eh ouais, c'est le retour, mais en tant qu'invité cette fois.
Voilà. Comment ça va ?
Bah ça va très bien, c'est bizarre d'être de l'autre côté de la régie, mais ça fait plaisir.
Bah c'est très cool. Donc on va parler de ton année de césure. Toi, ça a été quoi le déclic pour faire une année de césure ?
Oula, en fait moi c'était en tout début de deuxième année de prépa, et ça faisait longtemps que j'avais pour projet de faire ça, et je savais pas quand le faire. J'avais des doutes sur mon orientation, et un soir, sur un coup de tête, j'ai décidé que ça y est, je partirais.
Et c'était un besoin ?
Ouais, de ouf. C'était grave un besoin.
Pourquoi ?
Bah en fait, le truc, c'est que je savais pas exactement ce que je voulais faire et j'avais pris la décision de faire une prépa à la fin du lycée. Je voulais faire les études les plus prestigieuses possibles et je faisais une prépa D1, donc une prépa droit économie à Cachan. Et l'idée m'est venue de... Enfin, c'est devenu un besoin à partir du moment où je sentais que ce que j'étais en train de faire, ce serait pas mon métier, ce serait pas mon chemin de vie, quoi. Donc au quotidien, quand... on est en prépa et qu'on est H24 à penser aux cours, et qu'on est en train de se rendre compte que ça va pas être son métier, et qu'on est un peu en train de faire ça pour rien, ça devient vraiment un besoin.
Mais ça te plaisait pourtant tes études ?
Ouais, ça me plaisait, puis j'étais bon en plus, mais c'était pas ce que je voulais faire dans la vie en fait. Parce que moi j'apprenais le droit à l'économie alors que mon envie c'était de vivre à la montagne et d'élever des chefs, tu vois. Donc,
Tu t'étais mis la pression ?
Ouais, je m'étais mis la pression, je m'étais vraiment mis la pression, et puis en plus ma sœur elle avait fait une prépa avant moi. Elle a fait une prépa de français, là, un truc comme ça. Et donc, pour moi, c'était important de faire une prépa aussi. Et puis, je sais pas, j'avais dit à tous mes potes que de toute façon, je ferais une prépa. Donc, j'avais tout donné pour faire une prépa.
Et ça n'a pas été trop difficile à accepter d'arrêter ?
Le fait d'arrêter ?
Oui.
C'était un peu difficile parce que j'avais des amis qui étaient là-bas et qui, eux, ont continué. J'avais un ami qui lui avait arrêté, mais... quand j'ai décidé d'arrêter et que j'ai commencé à me concentrer sur mon projet, que j'ai commencé à me renseigner sur comment j'allais partir, j'étais à fond dedans. Donc en fait, je suis passé de la prépa au voyage et j'ai pas eu de creux entre les deux projets.
De quelle manière tes proches ont réagi quand tu leur as annoncé ?
Ça a été compliqué pour ma mère, parce qu'elle savait que j'allais partir loin et que j'avais pas de date de retour. Je suis parti moi au Pérou. Donc c'est quand même sur un autre continent, mais à part pour ma mère, ça l'a fait. Mes potes, ils étaient à fond, ils étaient en mode « mais t'es un fou, quoi ». Il y a juste ma mère pour qui c'était un peu compliqué, ma sœur, elle se questionnait, et mon père, bon, il était juste en mode « fais ta vie et fais-le à fond, quoi ».
Ouais, il y avait de la peur, de l'appréhension.
Pour ma mère ?
Ouais.
Ouais. En plus, je suis le dernier de la famille, je suis le petit frère, donc c'est quand même pas pareil.
Donc toi, ton choix, ça a été de partir au Pérou. Pourquoi t'as choisi cette destination ?
La vraie histoire de pourquoi je suis parti au Pérou, c'est juste, j'ai pris l'application Maps, j'ai scrollé au hasard, j'ai mis mon doigt à un endroit et c'était le Pérou.
Audacieux.
Ouais, mais après ça aurait été la Syrie, j'aurais pas fait la même.
T'aurais quand même réfléchi à deux fois. Et est-ce que tu te rappelles des démarches qu'il fallait faire pour partir à l'étranger ? Ça peut être utile de savoir.
En fait, déjà, faut différencier l'année de césure et l'année sabbatique. Moi, j'ai pas gardé le titre d'étudiant, donc c'est une année sabbatique, si je me trompe pas. Donc, c'est quand même différent. Si on part en tant qu'année sabbatique et qu'on veut pas être étudiant, on peut partir partout dans le monde tant qu'on a un passeport et que le pays a les frontières ouvertes, en fait. Donc, moi, je suis parti au Pérou, j'ai refait mon passeport parce qu'il était périmé. Passeport et c'est tout, hein. Il n'y a pas besoin de quelque chose en plus.
De quelle manière t'as pu financer ton voyage ?
Alors, en fait, j'ai décidé de partir au Pérou en septembre 2022 et je m'étais dit que je partirais en janvier 2023. Donc de là, j'avais 5 mois, si je me trompe pas, un truc comme ça. 5 mois pour travailler, donc je suis rentré vivre à Angers, chez mes parents. Et j'ai travaillé en tant qu'animateur, comme j'avais toujours fait, animateur sur les mercredis en accueil de loisirs. Et en plus, je faisais animateur périscolaire dans l'école de mon village, matin, midi et soir.
Et est-ce qu'il y a un budget minimal pour partir ? Est-ce que ça dépend ?
Ça dépend. Ça dépend de quel est son plan. Moi, je suis parti en me disant que de toute façon, j'avais pas de date de retour. Donc, la question du budget, il fallait que je dépense le moins possible. Parce que partir sur 6 mois ou partir sur 1 an et demi, c'est quand même pas pareil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai économisé beaucoup d'argent pour me sentir en sécurité. Je crois que je suis parti, j'avais 3000 euros sur mon compte. Après, j'ai eu la chance de vivre chez mes parents, donc je pouvais économiser tout cet argent. Et quand j'étais au Pérou, je faisais du woofing, donc je travaillais dans des endroits, j'ai travaillé dans des hôtels, j'ai travaillé dans des auberges de jeunesse, dans des fermes. Et en échange de mon travail, j'avais la nourriture et le logement.
Mais tu gagnais pas un salaire spécifique là-bas ?
Non, je gagnais pas de salaire. J'avais quand même une rentrée d'argent sur mon compte. Alors, c'est pas quelque chose à faire, mais je l'avais quand même. C'est-à-dire que, vu que j'arrêtais début septembre, j'étais quand même scolarisé. Et vu que j'étais scolarisé et que je vivais loin de chez mes parents et en fonction du revenu de mes parents, je touchais une bourse. Et vu que j'ai jamais appelé la fac et la prépa pour dire que j'arrêtais, j'ai continué de toucher la bourse. Donc, je touchais 106 euros. Donc, c'est le quota 0 bis. Mais je touchais quand même 106 euros. Sauf que 106 euros, quand on est au Pérou et que c'est transformé en soles, ça devient très vite quasiment 500 soles. Et avec 500 soles, on peut vivre un petit peu. Donc c'était agréable d'avoir ça sur le compte quand même.
Mais à côté de ça, est-ce que tu as rencontré des difficultés là-bas, que ce soit financières ou autres, pour se loger ?
Non, parce que j'ai quand même toujours organisé à l'avance. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au Pérou, je savais à quel endroit j'allais travailler. J'avais déjà parlé avec les propriétaires de l'auberge de jeunesse et je quittais jamais un lieu sans avoir prévu ce que j'allais faire après.
T'as pas une petite anecdote à raconter ? Quelque chose qui s'est passé là-bas ?
Alors le seul moment où je suis parti et où je savais pas où j'allais, c'est que je suis parti de Lima, donc la capitale du Pérou, au bout d'un mois et demi, en me disant que j'allais atteindre une ville et que j'allais le faire à pied. Et je m'étais dit, c'est pas grave, tu dors dehors, de toute façon... Au Pérou, c'était au mois de février ou mars, donc c'était le plein été là-bas. Et donc j'ai décidé de quitter Lima et je voulais rejoindre une ville qui s'appelait Huacachina. Donc j'avais prévu tout mon trek et tout, c'était 10 jours de marche. Et en fait, j'avais pas du tout compris à quel point, juste après Lima, il y avait un désert immense. Donc je suis parti, j'ai marché pendant 10 heures, 12 heures. Et quand j'ai regardé la carte de plus près et que j'ai regardé où est-ce que j'allais dormir, c'était impossible en fait. C'était impossible parce qu'il y avait juste un désert à l'infini et que je pourrais pas me réapprovisionner en eau et en nourriture.
Ah ouais, donc là, t'es parti à l'aventure et t'as fait comment ?
Ben en fait, au moment où... en fait, faut vraiment se rendre compte que c'est la banlieue de Lima, donc c'est juste du désert avec des toutes petites maisons. Et je suis arrivé aux dernières habitations et j'ai demandé aux gens si c'était possible de dormir une ou deux heures plus loin, comme ça en leur expliquant mon projet. Et tout le monde m'a pris pour un fou, quoi. Mais même à l'hôtel, à l'auberge de jeunesse où je suis parti, tout le monde me disait « tu vas pas y arriver » et tout. Et puis moi, j'avais trop d'ego, donc je disais « si, si, je vais le faire ». Et donc j'ai pu faire demi-tour, j'ai refait 2 heures de marche et j'ai récupéré un bus qui m'a ramené à l'auberge de jeunesse, enfin pas loin en tout cas, dans le quartier, dans le centre de Lima. Et l'auberge de jeunesse m'a laissé revenir pour retravailler avec eux pendant 2 semaines de plus.
Donc au final, t'as pas été dans la ville
Non, j'y suis jamais allé, puisque 2 semaines plus tard, après, je suis parti dans un autre village à Lima, pas à Lima, au Pérou, où je suis devenu fermier pendant quelques semaines.
C'est une drôle d'anecdote. Et moi, je me demandais, qu'est-ce que ça t'a apporté comme compétence que t'aurais pas pu acquérir en France de partir au Pérou ?
Parler espagnol, déjà, parce que j'aurais jamais appris l'espagnol sinon. J'ai fait toute ma scolarité en LV2 espagnol, je savais rien dire quand je suis parti au début. Donc déjà, c'est le premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est d'avoir l'audace de prendre son courage à deux mains, parce que arrêter ses études, ça fait super peur. Surtout quand tu fais une année sabbatique et que t'as même plus le statut étudiant, tu te dis que peut-être tu auras jamais de nouveau le statut étudiant. Donc ça fait peur. Et puis c'est partir tout seul sur un autre continent, donc quand je suis revenu, j'étais quand même pas pareil. Je savais prendre des responsabilités un peu tout seul parce que là-bas, j'avais zéro connaissance, j'avais zéro ami. Donc j'ai dû tout reconstruire tout seul.
Donc est-ce que ton voyage, il a contribué à ton choix d'études ensuite? Parce que
ouais.
T'as repris les études.
Ouais, bien sûr. Parce que avant, du coup, de partir, comme je disais, j'étais animateur périscolaire. Et donc je communiquais beaucoup avec les professeurs d'école. Et quand je suis parti, un des trucs qui m'a le plus manqué, c'est de travailler avec les enfants, parce que là-bas, j'ai jamais travaillé avec les enfants. Et ouais, je pense que après ma famille, c'est le deuxième truc qui m'a le plus manqué. Et au fur et à mesure du Pérou, je repensais aux discussions que j'avais avec les professeurs d'école, et je savais que quand je reviendrais, ce serait ça mon projet.
Ça a été difficile de reprendre les études après ce voyage ?
Non, ça a été très facile. Déjà parce que j'avais mon entourage qui m'a beaucoup aidé. Je sais pas si j'ai le droit de le dire là, mais Inola, c'est elle qui m'a relancé sur les études et qui m'a envoyé les dossiers, qui a corrigé ma lettre de motivation et tout. Donc j'avais la chance d'avoir un entourage comme ça. Donc ça, c'était très facile parce que tout le côté administratif, on m'a accompagné. Sinon, je l'aurais pas fait tout seul. Il me manquait plein de documents, enfin bref. Et le deuxième truc, c'est que j'avais fait une prépa avant, donc avec un rythme vraiment intense. Si les gens ils veulent savoir comment ça fonctionne une prépa, on a une émission dessus aussi, qu'on peut retrouver sur Radio Campus. Et j'avais fait une prépa et là je me suis relancé dans une licence sciences de l'éducation, donc avec un rythme bien plus simple, bien plus facile, donc non, zéro souci.
Est-ce que tu penses que l'année de césure, elle est faite pour tout le monde ?
L'année sabbatique
pour toi,
ouais. Ouais, je pense qu'elle est faite pour tout le monde dans le sens où... c'est juste le moment de se lancer, après revenir, c'est facile. Hein. Ça fait peur parce qu'on a toujours été dans le système scolaire depuis tout petit. Donc on se dit, on arrête une année, qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est quoi derrière ? Mais une fois qu'on est lancé, il n'y a pas de souci, tout le monde peut le faire sans aucun problème.
En fait, le tout, c'est d'avoir des objectifs ?
Ouais, je pense que c'est ça. Et le fait de trouver un objectif peut être un objectif. Je veux dire, on peut arrêter ses études en se disant « mais je sais pas exactement ce que je veux faire, donc je vais arrêter pour savoir ce que je veux faire ». Parce que c'est dur de prendre du recul aussi sur ce qui nous passionne, ce qu'on a envie de faire quand on est à fond dans les études. Au final, on fait ses journées en cours, on a un petit travail à côté pour la plupart des étudiants, et il nous reste quel temps pour réfléchir vraiment à qu'est-ce qu'on veut faire. Donc c'est important d'arrêter et de s'imposer ce temps-là pour y réfléchir, et je suis sûr qu'il y a plein de personnes à qui ça peut faire des déclics.
Je te remercie, Esteban, de nous avoir partagé ton expérience. J'espère que ça va en rassurer plus d'un sur l'année sabbatique ou l'année de césure. On se laisse une petite pause musicale, et pour rester dans le thème, c'est une musique que notre invité écoutait pendant son voyage au Pérou.
I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination you're waiting, lying on your side with your hands between your thighs. Stop and wait a sec.
Play.
Ça nous parle, l'émission étudiante de Radio Campus Angers.
Inela, tu voulais nous parler un peu plus de ce qu'on pouvait faire pendant une année de césure ou une année sabbatique?
Oui, alors d'abord la différence entre l'année de césure et l'année sabbatique. En fait, l'année de césure, tu gardes le statut d'étudiant et l'année sabbatique, tu n'as plus le statut d'étudiant. Donc d'abord, ça c'est important. Et aussi, je voulais rappeler que tous les parcours ne sont pas linéaires et c'est ok de ne pas trouver sa voie directement. Sur le sujet de l'orientation, vous pouvez aller écouter notre épisode qui aborde ce sujet d'ailleurs.
On a vu avec Esteban la possibilité de partir en voyage. Quelles sont les autres possibilités?
Oui, alors d'abord, arrêter ses études pendant un an ou plus, ce n'est pas perdre une année. Au contraire, c'est pouvoir se découvrir sous un autre angle que les études et le parcours standard. Pendant cette période, tu peux travailler par exemple pour enrichir tes compétences. Et c'est ces expériences qui feront la différence vis-à-vis des autres qui ont suivi un parcours linéaire ou classique. C'est l'occasion de mener un projet personnel et d'expérimenter des choses avant de mettre un pied dans le monde du travail pour découvrir ce qu'on aime vraiment. D'après un sondage commandé par l'association AnimaFac, la moitié des étudiants de 18 à 24 ans aimeraient prendre une année de césure. Mais seulement 15% osent se lancer, même si ce chiffre est aujourd'hui en hausse. En fait, c'est surtout car cette pause est perçue en France comme un risque dans leur cursus scolaire.
On peut avoir peur de faire une pause dans ses études car on se dit que les employeurs cherchent des gens plus compétents, peut-être?
Eh oui, mais les compétences, tu peux les acquérir autrement. Par exemple, en faisant un service civique. Et pour ça, la seule compétence exigée, c'est la motivation. Tu n'auras peut-être pas le même salaire que si tu étais dans une entreprise, mais ça permet de mettre un premier pas dans le monde du travail. Et c'est souvent très apprécié chez les employeurs car c'est un réel engagement. Ce type de poste est réservé aux personnes de 16 à 30 ans, sur une durée d'environ 6 mois à 1 an. Aussi, il y a parfois des situations où l'on sait qu'on veut continuer les études, mais c'est compliqué de savoir, en fait, à notre âge, ce que l'on peut faire dans la vie. L'important, c'est de ne pas arrêter de chercher sa voie. La France a mis en place un programme pour aider les jeunes à trouver leur domaine de prédilection. C'est par le biais de France Travail, donc anciennement Pôle emploi, et ça s'appelle le contrat engagement jeune. Donc c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi et surtout sans projet professionnel. En fait, le but ici, c'est d'aider les personnes à prendre confiance en eux en faisant des missions variées, en ayant un suivi en fait à la fois personnel, professionnel et psychologique, ainsi qu'une petite rémunération en fonction de celle des parents. Une autre idée, si tu ne veux pas rester en France pendant cette année, tu peux aussi partir avec le Corps européen de solidarité. C'est proposé pour les jeunes de 18 à 30 ans, dans le but de s'investir à l'étranger ou dans leur pays. Dans ce projet, il est possible de faire du volontariat, du bénévolat auprès des locaux ou encore de l'aide humanitaire. L'important, quoi qu'il se passe durant cette année, c'est vraiment de vivre dans le présent, de chercher à se comprendre soi, ses envies et surtout, comme nous avons vu avec l'expérience d'Esteban, cette période peut apprendre l'autonomie et elle est surtout enrichissante, autant sur le plan émotionnel que relationnel. Donc si l'envie vous traverse l'esprit, vous avez plein de portes qui s'ouvrent à vous pour l'organisation de cette période de questionnement. Et surtout, il ne faut pas en avoir peur.
Merci Inela pour ta chronique, ça donne envie de partir en fait. Merci à notre invité Esteban d'avoir partagé son expérience aujourd'hui.
Et bah merci pour l'invitation, ça fait plaisir.
Merci Inela, c'était ta première chronique à la radio et c'était très cool de partager ce moment avec toi.
Ah ouais, c'était super.
On remercie aussi Enzo qui nous aide à la régie aujourd'hui. Et c'était notre avant-dernier épisode de l'année. Mais si vous voulez nous réécouter, on est toujours disponible sur le site de Radio Campus Angers et sur toutes les plateformes de streaming. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre compte Instagram @ça nous parle, c'est N parle. Bonne fin de journée!
Ça nous parle, une émission à retrouver sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.